Séoul, au jour le jour. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul, au jour le jour. Quel pays serait un producteur de drogue utilisant des caractères semblables à ceux du chinois et dont la majorité de la population est paysanne ? Eh bien, la Corée du Sud. C'est ainsi que certains manuels scolaires étrangers la décrivent. Mais comment se fait-il que ces erreurs subsistent encore ? Dans un manuel britannique destiné aux lycéens, le pays du matin clair est même présenté comme l'un des principaux producteurs d'amphétamines. D'autres livres la classent parmi les pays d'Asie du Sud-Est, ou encore la décrivent à tort comme une ancienne colonie de l'Espagne, voire comme un territoire ayant appartenu à la Chine. Selon la commission de contrôle et d'inspection, entre 2021 et 2023, ce genre d'informations erronées ont été relevées dans les manuels de 15 pays. Pourquoi de telles erreurs ne sont pas corrigées? Les auditeurs pointent du doigt le manque d'efforts de certaines ambassades et consulats. L'Académie d'études coréennes, chargée du projet « Mieux faire connaître la Corée », signale régulièrement ses fautes, mais toutes les missions diplomatiques ne sont pas coopératives. Sur 74 missions sollicitées en 3 ans, 11 n'ont mené aucune action pour correction, évoquant un manque de personnel. Certaines n'ont même pas répondu. Le ministère des Affaires étrangères affirme que la correction de ces erreurs n'est pas une tâche facile. En Chine et au Japon, par exemple, les questions historiques liées à la Corée sont particulièrement sensibles et les demandes y sont souvent perçues comme des ingérences. Autre difficulté, le rythme de révision des manuels scolaires varie selon les pays. Même quand une erreur est reconnue, il faut souvent 3 à 5 ans pour qu'elle soit réellement corrigée. Enfin, certains auteurs refusent la modification, estimant que ces demandes constituent une atteinte à leur liberté académique. Mais heureusement, la situation s'améliore. Avec la vague mondiale de K-culture, de plus en plus de pays acceptent les demandes de correction. Certains demandent même des documents officiels pour inclure des contenus culturels coréens dans leur manuel. Aujourd'hui, la Corée du Sud ne se contente plus de corriger les erreurs, elle organise des formations pour les auteurs étrangers et produit du matériel de promotion afin de diffuser une image plus positive du pays. Parfois, certains surnomment la Corée du Sud la République de Séoul, tant la population et les infrastructures y sont concentrées. Alors que le déséquilibre entre la capitale et les régions reste une préoccupation majeure, une récente enquête montre que 7 baby-boomers sur 10 vivant dans la région métropolitaine seraient prêts à s'installer ailleurs s'ils pouvaient trouver un emploi. Cette étude, menée en septembre par la Fédération des industries coréennes, la FKI, a interrogé 500 personnes nées entre 1955 et 1974. Près de 73% des répondants ont déclaré qu'ils accepteraient de travailler dans une petite ou moyenne entreprise en dehors de Séoul. Les raisons les plus souvent évoquées sont le désir de préserver leur santé, de vivre plus calmement, de profiter d'un environnement plus naturel et de réduire leurs dépenses. À l'inverse, ceux qui préfèrent rester à Séoul ont mentionné le manque d'infrastructures médicales, éducatives et culturelles dans les régions, l'habitude du confort urbain, ainsi que les difficultés liées au transport et à l'accessibilité. Les zones les plus attractives étaient Chuncheong, au centre du pays, avec près de 33% des réponses, suivi de Gangwon, avec 27% des réponses, et de Honam, 15%, puis Yongnam, 10%. La FKI a d'ailleurs récemment proposé un modèle de triple alliance réunissant les baby-boomers, les villes de province et les PME locales. L'objectif est de créer, à l'échelle nationale, un cercle vertueux permettant de garantir la sécurité financière des baby-boomers après leur retraite, de résoudre la pénurie de main-d'œuvre dans les PME régionales et de stimuler les économies locales tout en contribuant à rééquilibrer le développement entre Séoul et la province. Pour Lee Sang-ho, directeur du département de recherche économique et industrielle de la FKI, encourager les baby-boomers proches de la retraite à retourner dans leur région d'origine et à y travailler permettrait non seulement d'alléger la concentration autour de Séoul, mais aussi de donner un nouvel élan à l'économie régionale et à la consommation intérieure. Le diamant est sans doute la pierre que l'on associe le plus à l'amour. Symbole de beauté immuable et d'éternité, il s'est imposé comme le bijou emblématique du mariage. Mais depuis quelque temps, sa réputation semble perdre de son éclat en Corée du Sud. Ce changement vient de l'apparition des diamants synthétiques, aussi appelés diamants de laboratoire. Contrairement à de simples imitations, leur composition chimique, leur dureté et leur éclat sont identiques à ceux des diamants naturels, à tel point que seuls des appareils spécialisés permettent de les distinguer. Leur prix, en revanche, est environ 10 fois plus abordable. Et comme leur fabrication ne nécessite pas d'extraction minière, ils ne posent pas de problème de destruction de l'environnement ou d'atteinte aux droits humains. Ces arguments séduisent particulièrement les jeunes générations, comme les générations Z, Alpha, sensibles aux valeurs éthiques et à la consommation responsable. Plus la qualité est élevée, plus l'écart de prix devient important, explique Cho Gyu-won, directeur de l'Association coréenne du commerce des pierres précieuses. Selon lui, c'est ce qui pousse de nombreux consommateurs à choisir les diamants de laboratoire, surtout dans une société de plus en plus sensible aux questions éthiques. L'engouement pour les diamants synthétiques ne s'observe pas seulement en Corée du Sud, mais aussi à l'échelle mondiale. Aux États-Unis, où la coutume de la bague de fiançailles est très répandue, les diamants de laboratoire ont déjà dépassé les diamants naturels en part de marché. Il n'est pas rare de voir les célébrités emporter lors d'événements officiels. Le marché mondial des diamants synthétiques représente aujourd'hui près de 24 milliards de dollars, soit plus de 20,7 milliards d'euros. À l'inverse, le prix des diamants naturels ne cesse de baisser depuis son pic de mars 2022. Même De Beers, la célèbre entreprise britannique à l'origine du slogan « Un diamant est éternel », traverse la plus grande crise de ses 130 ans d'histoire. Le succès des diamants de laboratoire pousse donc toute l'industrie des pierres précieuses à se transformer. Certains vont jusqu'à prédire l'effondrement du marché du diamant. Si un jour le prix d'un diamant synthétique tombait à 10 dollars le carat, se demande-t-on, qui voudrait encore acheter un diamant naturel? L'avenir nous dira si le diamant de laboratoire brillera plus longtemps que le naturel. Maintenant, un message d'un de nos auditeurs. La post-saison de KBO League, le championnat de baseball de Corée, s'est terminée début novembre. Odélie Franck nous a écrit « Magnifique sport le baseball. En Corée du Sud, l'ambiance dans les stades est joviale et respectueuse. Vous avez raison, mais au-delà de l'énergie des fans, il paraît que les petits plats qu'on y savoure comme le poulet frit séduisent aussi les spectateurs. Merci pour votre message. » Avant de passer à la prochaine nouvelle, écoutons ensemble Diamond de Kom Jong Tima.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Ces dernières années, la marque de mode sud-coréenne Matin Kim connaît une croissance fulgurante et elle vient d'ouvrir une boutique dans un lieu inattendu, le marché de Gwangjang à Séoul. Quand on pense à ce marché, on imagine des cuisines de rue telles que le bindaedok, galette à base de haricots mungo ou le tteokbokki bâtonnet de pâtes de riz à la sauce piquante plutôt qu'une marque de mode branchée. Ce choix n'est pourtant pas un hasard. Si le marché de Gwangjang a été choisi, c'est avant tout pour sa valeur symbolique. Ouvert en 1905, ce marché traditionnel emblématique célèbre cette année son 120e anniversaire. Porté par la montée de la tendance « neutro », composée des mots « new » et « rétro », il s'est transformé en un lieu branché où cafés et boulangeries branchées se multiplient. Grâce aux réseaux sociaux, il s'impose désormais comme une destination incontournable pour les touristes étrangers. Des marques de mode comme Kodak, Kirsch ou Rauro y ont déjà ouvert des boutiques et même le café franchisé Starbucks s'y est installé. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle pour le marché déjà célèbre comme site touristique? En réalité, sa situation reste difficile. À l'entrée, les rues pleines de stands de nourriture sont très animées, mais au deuxième étage et dans les allées plus profondes, il y a beaucoup moins de monde. Plusieurs magasins ont même fermé faute de clients. C'est dans ce contexte que les commerçants, les entreprises et la municipalité ont décidé, après discussion, d'accueillir ces nouvelles enseignes. Certains craignaient que l'identité du marché se perde ou que les clients soient détournés, mais au contraire, ce changement a redonné du dynamisme au site. Les nouvelles marques font également des efforts pour la coexistence avec les commerçants locaux. Lors de son ouverture, Matin Kim a collaboré avec des commerçants à proximité. Elle leur a distribué des uniformes et les ont aidés à créer des menus spéciaux. N'y a-t-il pas de risque de la hausse des loyers? Dans ce marché, la majorité des bâtiments appartiennent à la société coopérative des commerçants eux-mêmes. Alors les loyers restent stables et abordables, contrairement à d'autres quartiers en vogue comme Karosukil et Sangsu. Aimez-vous le café décaféiné? Autrefois considéré comme moins bon que le café classique, il est aujourd'hui devenu une nouvelle norme en Corée du Sud, portée par la tendance du bien-être et de l'attention portée à la santé. Ah Eun-sang, une employée de 28 ans, a confié à Dong Ha-il-bo qu'elle a remplacé depuis 2 ans son café américain habituel par du café décaféiné. Elle explique « Quand je bois du café normal, la caféine m'empêche de bien dormir et me laisse fatiguer longtemps. » Avec le décaféiné, je me sens mieux et le goût des grains s'est aussi beaucoup amélioré ces dernières années. Une célèbre chaîne américaine implantée en Corée du Sud a également annoncé que de janvier à octobre de cette année, elle avait vendu 36,5 millions de tasses de café décaféiné, une hausse de 35% par rapport à la même période l'an dernier. Ce chiffre dépasse déjà le total annuel de 2024, estimé à 32,7 millions de tasses. Le café americano décaféiné est désormais la troisième boisson la plus vendue dans cette chaîne, après le café americano classique et le café latte. Cette popularité croissante du café décaféiné s'explique par la montée d'un mode de vie axé sur la santé. Au début, il s'agissait d'un choix réservé aux personnes sensibles à la caféine. Mais de plus en plus de consommateurs cherchent aujourd'hui à réduire leur consommation sans renoncer au plaisir du café. Interrogé par Dong Ha-il-bo, Moon Jong-hoon, professeur à l'Université nationale de Séoul, a expliqué que cette tendance s'explique notamment par les femmes de 40 à 50 ans, attentives à leur bien-être et à la qualité de leur sommeil. Elles cherchent à profiter du café sans compromettre leur santé, ce qui favorise le succès du décaféiné. Le Festival international des arts numériques, Novembre numérique 2025, se tiendra tout au long du mois de novembre à Séoul, à Incheon et à Gwangju. Conçu par le service culturel de l'ambassade de France en Corée du Sud, en collaboration avec l'Institut français, l'événement propose à travers la rencontre entre l'art et la technologie une nouvelle forme d'imaginaire culturel partagé entre les deux pays. Lancé en 2017 par l'Institut français en partenariat avec le réseau culturel français, à travers le monde, Novembre numérique est organisé annuellement dans plus de 130 villes et 70 pays. Cette année, placée sur le thème IA et éthique de la création, mettra en lumière la manière dont les technologies redéfinissent les émotions humaines, l'imagination et le rôle même de l'art, à travers 3 grands programmes présentés sur le territoire sud-coréen. Tout d'abord à Séoul, l'exposition MetaSensing, l'espace sensible, se tiendra du 7 au 16 novembre au Platform L Contemporary Art Center. Elle invite à réfléchir jusqu'où les technologies de l'IA et de la XR peuvent-elles étendre les sens humains. Le spectateur n'est plus un simple observateur, mais devient un véritable sujet de perception, un corps qui ressent l'espace. L'exposition réunit des artistes tels que Caroline Pozzi et Jonathan Vinel, Vincent Siciliato et Juan Arroyo, Leanne Sanchez, ainsi que les créateurs sud-coréens Park Sung-soon et Chung Yun-soo. Du côté d'Incheon, l'exposition interrogative AI est prévue du 20 novembre au 1er février à l'Incheon Art Platform. Elle explore la relation entre l'homme et l'IA en s'interrogeant sur la manière dont la machine perçoit, comprend et recrée le monde. Une vingtaine d'œuvres allant de la génération d'images par IA aux installations sonores et aux vidéos interactives abordent des thématiques telles que la mémoire biaisée de l'IA et le dialogue entre la machine et l'humain. Enfin, à Guangzhou, un forum international intitulé « Disobedient Code, When Refusal Becomes Form » se déroulera le 27 novembre au Guangzhou Media Art Platform. L'événement réunira des artistes, des chercheurs et des spécialistes autour des enjeux éthiques et créatifs du code et de la désobéissance numérique. Consacré à l'IA, à l'éthique ainsi qu'à la liberté de création, ce colloque interroge la manière dont l'art choisit de résister et de s'exprimer à l'ère technologique. Avant de passer à Focus Asie, écoutons ensemble Digital World de Zhang Jia.
Pour bien commencer la semaine, quoi de mieux que les faits divers en provenance d'Asie? Voici Focus Asie, présenté par Oh Hayang.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Asie. Notre première destination est le Japon qui poursuit son adaptation au vieillissement de la population. Sur une colline de la ville portuaire de Yokosuka, un ancien lotissement public, déserté depuis 5 ans, renaît grâce à un projet de la mairie. Les vieilles maisons ont été transformées en logements combinés à de petits commerces. L'idée est de faire revenir des habitants tout en redonnant vie au quartier. Le loyer reste abordable, environ 300 euros par mois. Et presque toutes les maisons ont trouvé preneur. D'après la NHK, parmi eux, Moto Mio, 57 ans, ancienne infirmière qui a enfin ouvert le resto dont elle rêvait plus jeune. Les voisins et commerçants s'entraident et ce quartier, autrefois en ruine, devient un modèle de revitalisation locale. Restons sur l'archipel, où la tendance du moment est le sans-parfum. Les produits aux odeurs fortes, comme les assouplissants ou les désodorisants, provoquent de plus en plus de malaise. Maux de tête, vertige, nausées, le phénomène a même un nom, Kogai, la nuisance olfactive. Une marque de détergent a même frappé fort avec une publicité où un jeune sportif souffre de cette sensibilité avant de retrouver la forme grâce à des produits sans parfum. Selon une enquête récente, 77% des Japonais se disent incommodés par les parfums artificiels, mais la plupart en utilisent encore. Les autorités ont pris conscience de cette nouvelle nuisance et appellent à la modération des usagers envers leurs voisins. Faisons une escale à Hong Kong, où une nouvelle mode venue de Chine intrigue et choque à la fois. De nombreux jeunes voyageurs passent la nuit dans des fast-foods. Pour économiser sur l'hôtel, ils dorment sur les tables ou dans les escaliers de restaurants ouverts 24 heures sur 24. Ce type de voyage façon troupe spéciale, comme on l'appelle, consiste à visiter un maximum d'endroits en dépensant le moins possible. Mais sur les réseaux sociaux, beaucoup dénoncent un comportement irrespectueux et nuisible à l'image du pays. Selon les autorités hongkongaises, le nombre de touristes chinois a augmenté de 11% sur un an, mais leurs dépenses ont chuté fortement. « direction la Chine, qui fabrique des diamants en une semaine. Grâce aux technologies de laboratoire, l'Empire du Milieu produit à grande échelle des diamants synthétiques, presque identiques aux naturels, mais beaucoup moins chers. Selon le South China Morning Post, la fabrication locale est plus importante que l'extraction mondiale de diamants bruts. Le marché du diamant de laboratoire, estimé à près de 22,4 milliards d'euros en 2024, pourrait tripler d'ici 2032. Le prix des diamants naturels a chuté de plus de 30% en 3 ans, mais sans être la conséquence de l'entrée sur le marché des diamants chinois. Pour les experts, les deux produits ne se confondent pas et évoluent sur leur propre marché. Notre voyage de la semaine s'achève en Indonésie pour assister à la lente submersion de sa capitale. Chaque année, Jakarta perd 10 cm, victime de l'affaissement du sol et de la montée des eaux. La moitié de la ville se trouve déjà sous le niveau de la mer, protégée par des digues sans cesse rehaussées. Le gouvernement a lancé l'immense projet de construire une nouvelle capitale, Nusantara, sur l'île de Bornéo, à 1200 km de là. Le palais présidentiel y est presque achevé et des bâtiments administratifs et des hôpitaux ont déjà ouvert. Mais le chantier devrait durer jusqu'en 2045 avant de pouvoir soulager la population de Jakarta et rééquilibrer l'économie du pays. Reste un défi majeur, réunir les 45 000 milliards de won nécessaires alors que seuls 10 ou 80% de financements privés ont pour l'instant été levés.
Voilà, c'est la fin de notre émission Séoul au jour le jour du lundi. C'était Yijin et Minyesong à la rédaction, Elodie Stanislas au micro et Ohayong à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite un très bon début de semaine à l'écoute de KBS World Radio.